انتوش بحملكم اهلا وسهلا بونخون.
La Syrie est le berceau des civilisations. La Syrie est la patrie des valeurs spirituelles. La Syrie respecte toutes les religions parce que la Syrie possède des souvenirs spirituels de toutes les religions.
La matinée des autres. L'alphabet père. Par Hélène Tournaire. Avec le docteur Bachir Zourdi, conservateur des antiquités classiques au musée national de Damas. Le père Philippe Ashkar, supérieur du couvent Saint-Serge à Maloula. Afram Samuel.
En 1929, à Ougarit, qui est une ville appelée aujourd'hui Ras Chamra, qui se trouve au bord de la mer, c'est un port, c'est pas très loin de l'Attaquier, un paysan a fait une découverte, et qui est une découverte capitale pour la connaissance des cultures dont nous allons parler ensemble, docteur Bachir Zourdi.
Le paysan, en travaillant sur ce tel fertile qui s'appelle tel Ras Chamra, en 1929, il a trouvé que la charrue ne marche pas. Alors, lorsqu'il a enlevé la pierre, il a découvert une tombe dans laquelle il a trouvé quelques objets. Alors, ces objets ont attiré l'attention des autorités et qui étaient à l'origine de faire des fouilles systématiques. C'est grâce à la mission de M. le professeur Claude Schiffer que ces fouilles systématiques se poursuivent depuis 1929 et ces fouilles ont mis à jour des vestiges d'une capitale extrêmement importante qui s'appelait autrefois Ugarit. Ugarit a joué un rôle extrêmement important à tous les points de vue, politique, économique, culturel, social, artistique. Au point de vue économique, Ugarit se trouvait entre deux royaumes qui étaient des grands royaumes de cette époque-là, le royaume égyptien et le royaume des Hittites. Alors, cette capitale cananéenne...
On dit cananéen, et vraiment, c'était une province de Canaan, c'est ce qui est devenu plus tard la Palestine. Nous parlons donc de découverte palestinienne.
Chanson nationale araméenne. Wa hazinon mokmon ayer fel omenizah.
Parmi toutes les trouvailles faites par la mission française et Claude Schaeffer, qui sont très nombreuses, des stèles, des ivoires, des statues, on a trouvé une petite tablette qui fait à peu près 5 cm de long et très très peu de large. Et c'est cette tablette qui est la découverte, car c'est le premier alphabet écrit du monde et il a été gravé, on ne sait pas par qui, mais au XIVe siècle avant le Christ, je crois.
L'histoire commence avec l'invention de l'écriture. Et l'écriture était, n'est-ce pas, tout d'abord en dessin, n'est-ce pas? Et finalement, ce sont les Arabes cananéens qui ont inventé l'alphabet. Et il y a une théorie que les Égyptiens, les prêtres égyptiens, savaient autrefois l'alphabet. Mais ils ont gardé ce secret. Alors, par le contact entre les Arabes cananéens et les Égyptiens, quelques Cananéens ont pu savoir ce secret et ils ont adopté, n'est-ce pas, ce système alphabétique. Et cet alphabet dont vous avez parlé, eh bien, c'est un modèle utilisé par un professeur, n'est-ce pas, pour enseigner les étudiants ou, si vous voulez, les débutants. Alors, c'était considéré comme vraiment une grande invention culturelle parce que ça facilitait, enfin, l'écriture et la lecture.
Pourrait-on dire, professeur Azourdi, qu'à cette époque, il y avait quelques écritures, les inscriptions monumentales de Babylone, les cunéiformes de Ninive, dont la bibliothèque était immense, ainsi que les cunéiformes de Nimroud, mais qui sont de découvertes plus récentes, et les hiéroglyphes, et que c'est dans le pays hittite, dans les pays de Byblos et d'Ougarit, qu'on a fondu ces trois langues pour créer cet alphabet d'échange entre les peuples qui comporte 22 signes. Est-ce que c'est bien la fusion de toutes les langues?
L'écriture nous donne une idée sur les relations internationales, sur les relations économiques, politiques, administratives, si vous voulez, n'est-ce pas? Vous savez qu'à Marie, la mission française a découvert à peu près 20 000 tablettes. À Tel Mardir, on a découvert dernièrement par la mission italienne à peu près 16 000 tablettes. Alors, ça prouve que ces tablettes ont joué, n'est-ce pas, le rôle de bibliothèque, si vous voulez, ou des archives. Et ce qui est très important, c'est que les archéologues ont constaté un certain ordre administratif. Et je crois que l'histoire de l'Orient ancien est beaucoup mieux connue maintenant que notre histoire du Moyen-Âge, grâce à ces documents culturel d'une grande valeur historique.
Mais cet alphabet qu'on appelle à tort phénicien, les phéniciens étant les commerçants, mais qui est en fait l'alphabet araméen, a eu une fortune prodigieuse. Ça a été la langue d'échange d'un vaste empire qui s'étendait du Nil à l'Indus à peu près. Je pense que c'est dans le 30e volume de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Il dit que la bibliothèque d'Alexandrie contenait 3 millions de vers de Zoroastre transcrits en araméen. C'est assez prodigieux et ça demande un travail considérable que d'avoir fait transcrire dans tous ces pays de ce vaste empire dans la langue commune de l'araméen.
Ce sont les araméens qui ont emprunté leur alphabet aux arabes cananéens. C'est-à-dire l'alphabet cananéen, l'alphabet d'Ugarit, c'est l'original, n'est-ce pas? Et ce sont les arabes araméens qui ont emprunté leur alphabet aux cananéens. Ils ont évolué certainement, n'est-ce pas, cet alphabet. Et puis, vous savez, les Hébreux aussi ont emprunté leur alphabet, n'est-ce pas, aux Arabes cananéens. Et grâce au peuple araméen que cet alphabet est diffusé, comme vous dites, n'est-ce pas, dans l'Empire persan, n'est-ce pas. Et vous savez, il y a une sculpture assyrienne qui représente un scribe assyrien utilisant toujours la tablette en terre cuite à côté d'un scribe arabe araméen qui utilise, n'est-ce pas, l'alphabet. Alors ça prouve qu'à cette époque, à l'époque assyrienne, n'est-ce pas, les scribes avaient l'habitude d'utiliser les deux moyens à la fois.
D'ailleurs, en Syrie, il y a encore 3 villages où le peuple parle l'araméen. Et nous allons entendre parler l'araméen, une petite histoire racontée par une paysanne en araméen.
مالخون أهلا وسهلا بون خون يبن تكعيد خون غباي نحو الصيف ويثا صيف نحوات خون شكرين خون خان على برية الصور وجحمو لهم بلوتا غباي نحو خا عصليبة خيط عيد العصليبة ثوكن إحيل تكعيد خون جنفرغين بعدين غباي نح أحذو خا وش مجريس شييبة وبأشبه يمتي أشبهوين زالي عم حوصيد هو عم حوصيد وحسمت خان قولي عم متشنيح متشعثة إعصر بني مومة وحسمت عم كريطلب بالخفوثي إيشو خان حالف إسكاليس ومرها نمنومة عم كريطلي قولي خان العروبة وكل كالس وكالس كريطلي وتشاعل معلي إنفذ العروبة زالي اللي عليك تأميلة وشاتيني مو عم كريطل كمليل هنا نمنومة عم كريطل يامت خبة عينت شحتش عقربة كالخان عقربة من الربوثة كويكا وكعيب بالخفوثة خان تحمل خلنا إمومة إلو ما أشبه هاي وبتم تحمل لنا ميت خلنا إمومة إيو خان وب يعني إلي سيطة وإشكل شهر ثب بلوتا وخان تيب مو بحن مالخم خيت كيا
Soyez les bienvenus à la salle dans notre pays. Mais c'est plus beau de venir en été. Nous aurions voulu vous voir en été, c'est beaucoup plus beau. Elle a raconté l'histoire d'un homme d'ici de Maloula, un homme d'une taille gigantesque. Il avait les mains qui arrivaient jusqu'aux genoux. C'est un homme qui portait un fardeau plus lourd que le fardeau d'un chameau. Il se trouvait ici. Une fois, il était dans le parti pour la moisson. À 10 heures avant midi, il s'est tendu pour se reposer. Alors, un scorpion, lorsqu'il dormait, qui vient passer par le cou de sa chemise, elle entre dans son corps et commence à le piquer. En se réveillant, il a cru qu'il y avait une puce qui le piquait. Il a supporté la piqûre jusqu'au soir. Le soir, il vient chez sa femme et lui dit, « Venez ôter un peu la chemise pour voir cette puce qui me pique. » Elle enlève la chemise et elle trouve un gros scorpion, aussi gros qu'un oiseau. C'était la puce qui le piquait.
Revenons à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire au moins le XIVe siècle avant le Christ. On a l'impression que d'abord Ougarit a été bien avant Athènes un centre culturel et d'humanisme très important.
Les migrations arabes de la presqu'île arabique vers le nord, vers la Syrie. La plus ancienne, c'est la migration des Arabes acadiens, puis la migration des Arabes cananéens qui sont installés en Palestine et ils ont donné le plus ancien nom à la Palestine, le pays de Canaan et sur la côte de la Syrie. En même temps, la migration des Arabes amorites qui sont installés à l'intérieur du pays, dont le plus important roi, c'était Hammurabi. Et lorsqu'ils ont formé des petits royaumes, dont le plus important royaume, n'est-ce pas, araméen, c'était le royaume araméen de Damas, Vous savez, le roi Hazael, le roi Barhadad, etc. Et puis, lorsque notre Seigneur, n'est-ce pas, Jésus-Christ, eh bien, beaucoup de Syriens, Araméens, n'est-ce pas, sont convertis, n'est-ce pas, en christianisme. Ils ont changé leur nom de l'araméen à un autre nom, n'est-ce pas, un nouveau nom, si vous voulez, le Syriaque. Alors, le Syriaque et l'araméen, c'est toujours le même, n'est-ce pas, le même peuple. Mais le Syriaque, c'est plutôt un nom chrétien, araméen chrétien, tandis que le mot araméen, c'est plutôt, n'est-ce pas, païen. Jusqu'à maintenant, comme vous dites, n'est-ce pas, en Syrie, nous avons trois villages, comme Maaloula, Jubaadin et Khabara, n'est-ce pas, dont les habitants de ces villages parlent encore, n'est-ce pas, avec le dialecte araméen.
C'est-à-dire que dans ces villages, on parle la langue même que l'enfant Jésus a appris
exactement,
dans son enfance.
Exactement. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé l'araméen, n'est-ce pas? À cette époque, l'araméen était vraiment la langue du pays.
On va faire la prière de Paternoster en langue araméenne. شما بو وبرورو حي قديس حضلو وشريرو امين ابو بشمايو نسقداش مغتي زي ملك زغني وصبيانو خي كانت بشمايو اوفرها بلان لحمو سمقونان يومونو وسبقلان حبين وحتوين لو تعلان نسيونو الو فاصولان من بيشو ميطول ديلو خي ملك زو حلو تشبعتو العلم المينا مين بشما بو وبرورو حي قديس حضلو وشريرو امين
Pour revenir à l'importance de ces découvertes, il faut se souvenir qu'à cette époque, la culture était essentiellement orale. Qu'en fait, l'écriture était réservée à trois classes sociales, si l'on peut dire, les fonctionnaires ou chargés du gouvernement, les prêtres et les écrivains publics. Donc, on s'écrivait très peu de personne à personne.
Oui.
Et lorsqu'on gravait des tablettes, c'était pour les communications avec l'extérieur, avec l'étranger, et parmi les tablettes trouvées à Ougarit et à Byblos, il y a des renseignements très très précis sur l'histoire de ce pays à cette époque. Il y a des traités, il y a des choses qui peuvent paraître comiques, comme les arrangements du divorce d'un roi.
Ces tablettes nous ont donné beaucoup de renseignements sur les relations internationales, par exemple les correspondances royales entre le roi d'Ugarit et le roi Hittite. Alors ça nous donne beaucoup de renseignements sur les relations politiques, n'est-ce pas, entre les rois, par exemple, arabes cananéens et les pharaons, n'est-ce pas, du 18e dynastie, de la 18e dynastie, à l'époque d'Amenophis ou Akhenaton, n'est-ce pas. Et vraiment, ça nous donne une idée sur les relations politiques. Et puis, n'est-ce pas, nous avons beaucoup de textes de contrats, n'est-ce pas, même de textes concernant les sciences, n'est-ce pas. La médecine, vous savez, les relations entre la magie, la médecine, c'est-à-dire vraiment, c'est un mine de renseignements, c'est une source inépuisable. Grâce à ces savants, nous savons maintenant l'évolution, si vous voulez, culturelle et mentale de l'humanité.
Il y a même des tablettes qui indiquent une méthode de découverte de la circulation du sang des siècles avant qu'on ne l'ait trouvé en Occident.
C'est-à-dire, ce que nous savons maintenant, certainement, ont une base, n'est-ce pas ? Une base dans l'Antiquité.
J'aimerais, professeur Zourdi, que vous nous disiez ce qu'on peut savoir de la vie dans l'Orient méditerranéen, des coutumes, des religions et de la vie spirituelle, d'après les découvertes d'Ougarit et de Byblos.
Il est très difficile de parler et de comprendre les religions de l'Orient ancien sans visiter la Syrie et de passer quelques jours en plein désert. En réalité, j'avais l'occasion d'accompagner une mission archéologique et de passer des nuits en contemplant le ciel. Alors, en contemplant le ciel, j'ai pu constater comment les anciens ont compris les forces de la nature, n'est-ce pas ? Le soleil, la lune, n'est-ce pas ? L'astre. Et comment ils ont appelé chaque force naturelle, chaque manifestation naturelle avec un nom. Le rôle du feu, le rôle de l'eau, n'est-ce pas ? Et ils ont constaté que chaque manifestation naturelle a sa valeur esthétique, a sa valeur dans leur vie. Et je crois que, par exemple, n'est-ce pas, la mer a joué un rôle extrêmement important, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ont pensé que l'homme porte quelque chose de sacré. La plus ancienne religion, c'est la religion du culte, n'est-ce pas, de la déesse mère. Et puis, n'est-ce pas, le culte du soleil, ils ont considéré, n'est-ce pas, le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de l'astre. Et chaque divinité, comment ils ont considéré la vie céleste comme une imitation, n'est-ce pas, ou si vous voulez, notre vie, n'est-ce pas, sur la terre, comme une imitation de la vie céleste. Et comment ils ont considéré le grand dieu Baal, Hadad, Anu, etc. C'est-à-dire dieu du ciel, de la terre. Cette pensée se trouve dans toutes les religions, n'est-ce pas, de l'Orient ancien, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, qu'en Syrie.
Le musée de Damas est très riche en statuettes. Il nous montre ce que les anciens ont fait de cette observation des forces de la nature. Pouvez-vous nous décrire quelques-unes de ces statuettes et les dieux principaux et qui ne sont pas très hauts, qui ont des sortes de jupes en forme de feuillage et qui ont toujours les mains croisées dans un geste de prière.
Oui. Parmi ces statuettes qui sont les plus importantes, à mon avis, des statuettes de la déesse mère. La déesse mère, c'est une création artistique, c'est une création de la pensée humaine. C'est une personnification de cette idée, n'est-ce pas, que la femme porte quelque chose sacré. Alors, l'artiste a présenté cette idée sous forme d'une belle femme debout, dont les mains sont serrées sur la poitrine. Nous en avons d'autres statuettes représentant une déesse portant son bébé, c'est-à-dire le thème de la maternité. Le thème de la maternité, c'est le plus ancien thème et à mon avis le plus intéressant. Ça représente que l'homme est très sensible. Ce qui caractérise l'homme, c'est sa sensibilité humaine. Et puis nous avons beaucoup de statuettes concernant la mythologie. L'homme s'intéressait à la mythologie. Et je crois que les études mythologiques sont d'une grande importance, d'une grande valeur au point de vue de pensée, au point de vue de l'imagination, au point de vue de la culture. L'homme a créé beaucoup de mythes. Et puis, n'est-ce pas, ces mythes sont devenus la religion de l'homme. C'est-à-dire, il y a des relations entre la culture et le culte. Nous en avons beaucoup de statuettes de dieu Hadad, dieu de la pluie. Vous avez vu dans notre jardin la main qui tient, n'est-ce pas, la foudre, n'est-ce pas, qui représente la force du dieu Hadad, dieu de la pluie. L'homme ancien a considéré qu'il y a une certaine trinité. C'est toujours le dieu du ciel, dieu de la terre et dieu, n'est-ce pas, de l'eau. Nous en avons beaucoup de statues et de statuettes qui représentent le dieu cananéen Baal. Toujours le dieu de la pluie. La pluie pour l'Orient, pour l'humanité tout entière, est à la base du bonheur de l'homme.
Il y a à Damas même un exemple éclatant et d'une grande beauté de la vocation de ce pays d'être un conservatoire des cultures et des civilisations. C'est la mosquée des Omayyades, qui fut d'abord, je crois, un temple néolithique, puis un temple
de Dieu, Hadad. Damas est une des plus anciennes villes qui existent encore.
Oui, Damas est cité dans la Genèse. Exactement. Et dans les textes de la 18e dynastie, oui, égyptienne. Oui.
Et c'est cité dans tous les documents de l'Orient ancien, aussi bien en Mésopotamie qu'en Syrie qu'en Égypte. Mais ce qui est très important, c'est que le général Razoun ibn Ilada a quitté son roi, Hadad Azar, le roi araméen. Il est arrivé en Syrie et il s'est installé en Syrie. Et il a créé en Syrie un royaume qui s'appelait, n'est-ce pas, le royaume araméen de Damas. Et c'est à partir de la fin du deuxième millénaire, début du premier millénaire avant notre ère, que Damas vraiment a joué un rôle extrêmement important dans la vie économique, politique, artistique du Proche-Orient. Damas et son temple, n'est-ce pas, ont joué un grand rôle dans la vie, comme je vous ai dit, surtout à l'époque de Hazael, de Bar Hadad et d'autres rois araméens. Et tous les livres saints, n'est-ce pas, ont parlé du rôle de Damas. Et puis, n'est-ce pas, le temple de Dieu Hadad s'est transformé en temple de Jupiter de Damas à l'époque romaine. Et puis, n'est-ce pas, il est devenu une église de Saint-Jean-Baptiste.
Mais est-il exact que la tête de Saint-Jean-Baptiste soit encore dans ce mausolée qui est dans la nef centrale de la mosquée de Damas?
Et vous savez, quelquefois, l'homme croit à la mythologie, n'est-ce pas? Et vous savez, on crée beaucoup de mythes concernant l'histoire d'Adam à Damas, n'est-ce pas? L'histoire de la Vierge, n'est-ce pas, à Damas. Alors je crois que c'est une imagination, si vous voulez, ou c'est une... L'homme de l'Orient, c'est un homme qui aime la poésie, qui aime beaucoup, n'est-ce pas, tout ce qui est imaginaire, n'est-ce pas, tout ce qui nourrit, si vous voulez, son imagination.
Cette mosquée est un hymne à la nature.
La mosaïque de la mosquée Omeyyade représente l'âge d'or de la mosaïque. Et ça prouve que la Syrie était un grand centre de l'art de la mosaïque. En étudiant, en voyant la mosaïque, les pavements de mosaïque de la mosquée Omeyyade, on rend compte sur le goût très fin, sur l'habité du travail, sur, si vous voulez, la volonté artistique de créer quelque chose qui donne la joie à la vue et qui suscite, si vous voulez, le plaisir pour tout le monde.
Dans la partie conservée, qui n'a été ni détruite ni brûlée, on voit, et encore sur une très grande longueur et hauteur, la décoration primitive qui était tout à fait somptueuse. C'était une mosaïque intérieur et extérieur, à fond d'or, une mosaïque surtout d'arbres avec des fruits et de paysages d'arbres et d'eau, avec des villes dont étrangement les maisons sont très hautes. Et ce n'est pas une simplification du dessinateur, c'est sûrement ou des reproductions ou quelque chose qui existait à cette époque. Et le ton général est de trois verres or. Admirablement conservé, le trésor qui repose sur 8 colonnes de marbre assez hautes. Et la mosaïque Alors là est tout à fait entière. Il ne manque plus que les feuilles d'or qui couvrent la coupole. La mosaïque est très 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 bien conservée. Elle est dans les mêmes tons que la mosaïque de paysage des galeries intérieures. Mais là, le décor, tout en restant floral, tend vers la géométrie, qui n'existe pas ailleurs. Ça n'est pas une mosquée à décor géométrique.
Damas est considéré toujours comme un villa, une maison à la campagne. Et le Ghouta, c'est-à-dire les jardins de Damas, étaient toujours des jardins qui se caractérisent par les fruits de Damas. Les fruits de Damas jouissent d'une célébrité mondiale. Alors l'artiste, touché par la beauté de la nature de Damas, il a présenté la beauté de Damas en mosaïque. Vous trouvez beaucoup de villas, la beauté architecturale de Damas, avec leurs jardins, le fleuve de Barada. Et l'artiste a utilisé le cube, aussi bien en pierre que de verre. Et quelquefois, il a utilisé des cubes dorés, n'est-ce pas, pour donner un certain reflet. Et il a disposé ces cubes de façon qui reflète, n'est-ce pas, la lumière du soleil. Et c'est vraiment quelque chose qui donne la joie, n'est-ce pas, qui suscite la joie, le plaisir. Et en regardant, n'est-ce pas, ces mosaïques, on rend compte sur le goût et la conception esthétique de l'époque omeyyade.
On a vraiment l'impression de se promener dans un jardin à la fois luxuriant, serein et paisible. Et cette impression est peut-être accentuée par l'importance, la grandeur de cette mosquée et ses voûtes arabes qu'on a appelées plus tard romanes. Mais on voit bien que l'art roman est né ici.
La coupole est très ancienne en Mésopotamie. Faute de pierre en Mésopotamie, il n'y a pas beaucoup de pierre. Alors les architectes mésopotamiens ont utilisé la terre cuite et ils ont arrivé à créer la coupole. Au plus, n'est-ce pas, les générations ont ajouté beaucoup d'habileté, beaucoup de créations architecturales. Et ils sont arrivés à cette coupole. À l'époque byzantine, la coupole, c'est un élément essentiel de l'architecture byzantine. Vous savez, l'église dorée d'Antioche était le joyau de l'architecture byzantine à l'époque byzantine. Malheureusement, elle est détruite, n'est-ce pas, à cause des tremblements de terre. Et puis, n'est-ce pas, l'art islamique a adopté la coupole pour deux raisons, à mon avis. Une raison esthétique, parce que la coupole, c'est quelque chose de beauté architecturale. Et deuxièmement, la coupole, ça représente, n'est-ce pas, le ciel. Et puis, l'architecture islamique en Espagne, et surtout en Andalousie, ont suscité l'admiration de tous les Européens.
Mosquée Omeyyade, c'était le temple du roi Hadad d'Araméa. C'est lui qui a construit ça. Alors, quand les Araméens ont été finis, c'était venu les Romains. C'est transformé en temple romain. Après les Romains, c'est le christianisme qui est venu.
Avec Jean-Baptiste.
Avec Jean-Baptiste. Le temple du roi Hadad est devenu l'église de Saint-Jean le Baptiste. À l'ouverture d'arabo-islam, quand ils sont rentrés à Damas, cette église était partagée en deux parties. Une partie qui était transformée en mosquée et l'autre qui était restée église. Alors comme le roi El-Malik bin Abdelwalid a voulu que les musulmans fassent la prière dans une seule place, alors, il a demandé aux chrétiens comme quoi il faut nous donner l'église parce que nous sommes devenus très nombreux, on ne peut pas laisser les gens dehors prier. Comme ça, je vais vous construire 4 églises par rapport de ce que vous allez nous donner. Alors ça, ça le vœu était arrangé avec le Malik Abdelwalid. Le Khalif Al-Walid, il a construit 4 églises pour les chrétiens et les chrétiens ont abandonné le mosquée Oumayyad pour les musulmans.
En laissant toutefois le tombeau de Jean-Baptiste.
En laissant toutefois le tombeau de Jean-Baptiste au milieu de...
Et actuellement, un culte chrétien se rend près
du tombeau. Un culte chrétien, oui, et puis le culte islamique.
Dans la nef centrale.
L'islam, l'appelle le prophète Yahya. Et les chrétiens l'appellent Jean le Baptiste. La chanson quand Hérodiade a dansé devant le roi Hérodes pour couper la tête de Saint Jean le Baptiste.
On y arrive par les souks et les souks l'entourent entièrement. Ils sont très très grands. Il y a cependant quelque chose de très étrange dans cette très belle salle immense de la mosquée des Omeyyades dont malheureusement une grande partie a brûlé où seuls 2 fragments de plafond peints demeure, il y a un cénotaphe de marbre blanc avec des vitres, des grilles de cuivre et c'est le mausolée de Saint Jean-Baptiste. Le tombeau lui-même est recouvert d'un drap de velours vert brodé de lettres d'or arabes bien sûr et qui sont des versets du Coran. Je veux dire que ce tombeau est entouré d'une grande vénération, de rituels coraniques. Mais les gens apportent des fleurs, il y a beaucoup de lumière. Ils donnent des offrandes par des interstices, des vitres. Ils jettent de l'argent dans le tombeau, des billets, des pièces. Il y a un petit autel dominé par un grand tableau de style koufique où quelques lettres seules sont tracées et qui disent « Dieu est totalement grand ». Très curieusement, de la façon la plus bizarre, adossé au pilier de marbre le plus proche du tombeau de Baptiste, se trouve une pendule campagnarde française. Il y a dans l'air de Damas quelque chose de tout à fait indéfinissable. Je ne dis pas que ça attire la sympathie, c'est autre chose. Et l'on comprend, quand on est ici, pourquoi Paul s'est converti sur le chemin de Damas.
Saül, qui exhalait encore la menace et le meurtre à l'égard des disciples du Seigneur, s'approcha du grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de lier hommes et femmes qu'il trouverait de cette voie et de les amener à Jérusalem. Il y a là, et comme il approchait de Damas, une lumière du ciel l'éblouit soudain, et, tombant par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me poursuis-tu ?» Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et lui « Je suis Jésus que tu poursuis. » Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'étaient arrêtés, stupéfaits d'entendre la voix et de ne voir personne. Saül se releva de terre, les yeux ouverts et n'y voyant rien. Et c'est en lui donnant la main qu'ils le firent entrer à Damas. Il fut 3 jours sans y voir, et il ne mangea ni ne but. Il y avait, à Damas, un disciple appelé Anani. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Anani. » Il dit, « Me voilà, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans ce qu'on appelle la rue droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saül de Tarse, car le voilà qui prie. » Et il a vu un homme appelé Anani qui entrait et qui posait les mains sur lui pour qu'il voie. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes saints de Jérusalem. Et ici, il a pouvoir, de la part des grands prêtres, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Le Seigneur lui dit, « Va, car c'est pour moi un outil de soi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Anani s'en alla, entra dans la maison, et après avoir posé les mains sur lui, il dit, « Saül, mon frère, le Seigneur, ce Jésus que tu as vu sur le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu voies et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles. Il voyait. Il se leva, fut immergé et, quand il eut pris de la nourriture, il fut revigoré. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et aussitôt il proclama dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.
Alors ça, c'est l'église de Sainte Anania.
La pierre est la pierre d'origine.
La pierre, c'est de l'origine.
Parce que c'est très, très beau.
C'est depuis le premier siècle
de notre ère.
De notre ère. C'est-à-dire, quand Saint Paul a pris la fuite de Jérusalem en venant à Damas, il est passé là et ça a été, dans le temps, on peut dire que c'était une maison ou un temple araméen ou romain, mais c'est devenu là où ils ont mis la pierre pour la transformer en église, ça c'est la plus ancienne église du monde.
Nous sommes passés tout à l'heure par une rue que Saint Paul a empruntée et qui a été construite avant le Christ.
Oui, ça s'appelle Shara al-Tariq al-Tawile.
Et maintenant, c'est une rue des souks, mais qui est restée absolument pareille.
Depuis longtemps, c'est des souks. Depuis longtemps, depuis avant Jésus-Christ, c'était des souks pareils. Alors, maintenant, on va rentrer ici à l'intérieur pour vous faire montrer le tunnel. que Saint Anania passait d'ici, du tunnel, pour aller faire la prière à l'église de Saint-Paul, qui était aussi un temple araméen. Alors, vous remarquez qu'ici, c'est construit avec des briques de terre cuite. Ça, c'est la spécialité assyrienne. Ou araméen, c'est la même chose. Alors, et ici, vous trouvez, il y a toujours des fauteuils, toute l'histoire de Saint Anania et Saint-Paul. Depuis son arrivée à Damas, avec le roi Shaul des Juifs, jusqu'à qu'il a pris la fuite avec le panier de l'église de Saint-Paul. Là où il était prisonnier, et cette prison est devenue une église.
Ce sont des peintures naïves, belles, assez colorées. Et il y a 30 petits tableaux.
Oui, voilà. Et ça, c'est les bougies pour allumer. Si les gens donnent des vœux.
Oui, ce sont des cierges de cire pure et assez colorées, de bandes et de pastilles, rouges, vertes et bleues, et certaines dorées, et des cierges avec des sortes de serpents ou des vautours également.
Et voilà, ici c'est Saint-Paul en le faisant descendre avec le panier pour qu'il prenne la fuite. Vous voyez les gardes, le garde comment s'est assis, et puis les deux autres le font descendre avec le panier.
Et là, nous ne sommes plus devant les peintures naïves, nous sommes devant des panneaux assez grands de bois sculpté et peint.
Oui, du bois sculpté, oui.
Il y a trois tableaux qui entourent un maître-autel.
Oui, l'autel où on fait le sacrifice. Et pour les autels, le plus ancien autel du monde, c'est celui de Maloula, à l'église de Saint Sarkis Bakos.
Qu'en fut-il de cette union mystique avec une jeune fille qui se prénommait Thécla, qui est devenue maintenant Sainte Thècle, et dont le couvent d'ailleurs se trouve à Maloula?
Chaque site a son histoire. Chaque site a son souvenir. Et Maloula garde un souvenir extrêmement intéressant, celui de Saint Thècle. Saint Thècle était une jeune fille de l'Asie mineure, ou plutôt de Cilicie. Et c'est une jeune fille qui se convertit au christianisme. Il était une des disciples, n'est-ce pas, de Saint Paul. Alors les païens étaient à la poursuite, n'est-ce pas, de cette jeune fille, n'est-ce pas, qui a adopté le christianisme. Et finalement, Saint Thècle est arrivé en Syrie et il a trouvé dans cette montagne de Maloula un bon abri. Alors les paysannes ont trouvé que c'est une jeune fille très gentille, très humaine. Alors, ces paysannes syriennes étaient toujours en relation avec cette jeune fille qui est devenue presque une sorte de médecin. Et lorsqu'elle était morte, alors on a fait construire son endroit en couvent qui s'appelle actuellement le couvent de Saint-Thècle. Et c'est un des couvents les plus anciens et les plus intéressants.
Il faut dire que le site de Maloula se prête au refuge, car c'est assez élevé, à 1500 mètres ou 1700 mètres d'altitude. C'est un paysage de canyon avec des rochers très impressionnants.
C'est un paysage d'un caractère tout à fait à part.
Du couvent Saint-Sarkis à Maloula, c'est-à-dire du couvent Saint-Serge, on domine tout à fait le village de 5-6 000 habitants aux maisons peintes de bleu. Il y a de chaque côté du balcon du couvent sur lequel nous sommes deux rochers très hauts, ocre, et il y a, Père Philippe, au sommet de ces rochers, des traces noires comme les traces de feu. Qu'est-ce que c'est?
Ces traces noires sont à cause des bûches ou bien des roues en caoutchouc qu'on brûle le soir du 13 septembre. On les brûle durant toute la nuit. Il y a du côté droit, ce sont les jeunes gens catholiques. Du côté gauche, dans la colline, du côté gauche, ce sont les jeunes gens orthodoxes. Et il y a émulation entre les deux communautés. Les uns veulent faire quelque chose de plus beau que les autres. Alors là, on fait des grands feux avec des croix en ayant. Puis les roues allumées, on les jette en bas dans le village. Et ce qui est étonnant, chaque année on le fait, et des grandes roues de caoutchouc brûlées qui tombent en bas et ne font pas des incendies dans la maison. Je ne sais pas comment. Et tous ces gens qui, toute la nuit, à faire des fusillades, des coups de canon, des coups de mitraillette, des coups de revolver. Grâce à Dieu, jamais n'est arrivé un accident regrettable.
Le 13 septembre, date de ces fêtes, c'est l'exaltation de la Sainte-Croix. Et est-ce qu'il dialogue d'un rocher à l'autre, qui sont assez loin, les deux communautés, la catholique et l'orthodoxe? Est-ce que les jeunes gens parlent entre eux?
Les jeunes gens commencent à se raconter les uns des autres l'histoire de leur jeunesse en langue araméenne, qui est la langue de Christ. Et parfois, vous savez, l'histoire de leur jeunesse, ça ne fait pas beaucoup honneur. Alors, cette église est très ancienne. C'était d'abord, à ce qu'il semble, d'après la porte originale, elle était d'abord temple païen. Cette porte originale date, d'après certains experts français, depuis 3000 ans. En tout cas, c'est certain, avant le Christ. Donc, c'était un temple païen. Il est possible que cette église avait été la première église au monde, parce que Maloula est chrétienne dès le 1er siècle, d'après l'inscription grecque qui se trouve dans une de ces grottes qui sont tout à côté. Puis, les premiers chrétiens qui se cachaient dans les grottes, et il y en a 315 grottes. Les premiers chrétiens qui se cachaient dans les grottes, il est naturel qu'ils assistaient à leur prière dans ce temple païen transformé en une église. C'est un architecte a dit qu'elle peut durer encore 1 million d'années et rester telle qu'elle, parce qu'elle est si solide. La deuxième porte, quand on a construit le couvent, on a ouvert cette deuxième porte. La porte originale qui est en bois pour cette deuxième porte, venez la voir, c'est celle-ci. Elle est faite en bois de cèdre. Nous disions d'abord que cette porte date du 4e siècle. Pourquoi? À cause du travail de se faire couper à la main avec le marteau et le couteau. Voyez les traces des marteaux, c'est martelé à froid. Même les clous sont martelés à froid. Mais maintenant, nous sommes certains que ça date du 4e siècle, d'après l'analyse au carbone 14 de ce bois. L'architecture de l'église est une architecture byzantine, romaine. Elle est faite en forme de croix grecque. Puis la construction, c'est juste la construction d'Hagia Sophia à Istanbul, coupole octogone sur 4 troncs, sur 4 arcades, puis sur 2 arcades. C'est une construction très difficile à faire aujourd'hui. On se demande comment on a pu arriver à faire cette pareille construction. Voyez cet hôtel qui date du 4e siècle. Car au 4e siècle, les chrétiens copiaient les hôtels des juifs. Parce qu'au 4e siècle, c'est plus ou moins le commencement, ou bien on commençait à voir le jour, les chrétiens, au temps de Constantin le Grand. Alors ils imitaient les hôtels des juifs. Chaque religion prend une autre. Jusqu'à présent, nous avons les prières des psaumes, qui sont les prières des juifs. Cet hôtel, les juifs faisaient des hôtels un peu creux pour conserver le sang du sacrifice. Et le prêtre juif mettait les mains dans le sang pour faire le symbole de l'unité entre sacrifice et sacrificateur. Venez voir l'autre hôtel.
Ce qui est étrange, Père Philippe, dans cette église du couvent Saint-Serge, c'est qu'il n'y a pas de baptistère. Comment baptise-t-on les enfants à Maloula, Sidnaïen?
Ici, à Maloula, on porte une table. Sur la table, on met un certain cuve. On met de l'eau jaune. On baptise l'enfant. Vous savez, chez nous, on baptise l'enfant, c'est pas comme chez les latins, à mettre un peu d'eau sur les fronts. On met dans la cuve la moitié d'eau, puis on met l'enfant dans la cuve, puis on met de l'eau avec la main, de la main à la tête. C'est juste comme on a baptisé le Christ. Ça, c'est symbolique. L'eau, après, l'eau sacrée, on la jette dans un puits, ici, tout à côté. Au lieu qu'il y ait baptistin, on la jette dans le puits et l'eau s'en va. Personne ne touche, personne on ne marche pas, on ne marche pas là-dedans. L'eau est bien conservée.
Et à Sidnaya, qui n'est pas très loin, et où il y a de très belles icônes dont on dit que certaines datent du temps des disciples et de Saint-Luc, est-ce qu'on ne baptise pas les enfants par immersion dans l'eau courante?
Ah, par immersion. Par immersion. Pas comme chez nous, la main on le met, on le met dans une cuve pleine d'eau, puis on tient l'enfant avec les deux mains et on l'immerge dans l'eau. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Oui, ça, parfois elle souffre l'enfant.
امين بارخ مور سوفيات وفروس كومين نقوم شافير كلام بصوت كونون ونقرون عن النمار اونو دي بير اديفيس دي سانت اسبري ابوين كلوبو دودش ما يوضر وات كلون ايلين مفحزيون وادلو مفحزيون وابقاد مريو يشو امشيحو يحيدو يبرو دلوت من ابو يتين لدق دون كلون المن نورو من نورو الو شريرود من الو شريرو إلي دولا بدولا شويت بوسي على بود بداي عود كور مطل زان نحيط من شماي وذقشام من روح حيو قديش ومن مريم تلدو يلدى صالوه وبرنوش ويسطلب لو فين بيومي فنطيوز وفي لطوز حاشو ميز ويتقبر وقم لتلوث يومينا دزبايا سلايا من يمين دبو يوتوب ذهب شحر ابو لمدون الحاي والميزه ود الملكوت شلو مولاي عود مالي وباشتح بعضيته قد اشتو قد ليقي واشتحته مودنا نعذوي ما مودي ذوي تردين مساكنا لقيم تدمي ذي والحياة حزي دب المدات ذمي مبارخ مور صمون قالو قل يا لعيسو.
Tout à fait à l'ouest de la Syrie, presque à la frontière, oui. Un jour en Bédouin, en 1933, c'est toujours par hasard qu'on trouve les choses, un Bédouin qui se trouvait dans la région du Moyen-Euphrate a trouvé lui aussi une statue.
La région est extrêmement pauvre en pierre. Toujours l'homme est à la recherche de la pierre. Alors, comme vous dites, un Bédouin a découvert un buste qui était à l'origine d'effectuer des fouilles systématiques par une mission française dirigée par notre professeur, M. André Parot.
Nous parlons du site de Marie,
oui.
Qui dépendait à ce moment-là de Sumer.
Oui. Alors, cette ville, la ville de Marie, est très connue dans l'histoire, mais les archéologues ignoraient le site exact de cette capitale amorite qui a joué un grand rôle dans la vie du Proche-Orient ancien.
Mais Marie était à cette époque en relation très intime et très suivie avec la Chaldée, puisque le roi d'Ur avait envoyé un trésor au roi de Marie.
C'est un trésor royal découvert par la mission française dirigée par notre professeur, M. André Parot. Et ce cadeau royal se compose de colliers, de lapis-lazuli et de cornaline, de statuettes en ivoire, d'une grande beauté artistique, de bracelets, etc. Et de cylindres aussi, n'est-ce pas, de nacre.
Oui, il faudrait parler de ces cylindres, parce que le sceau a toujours été un insigne royal ou très officiel.
Il y a deux sortes de cachets. Il y a deux cachets plats, il y a deux cachets cylindriques. Alors, tout d'abord, ils ont utilisé les cachets plats. Et finalement, ils sont arrivés à utiliser les cachets cylindriques, qui nous donnent une idée sur l'art de la gravure et l'habileté de l'artiste d'autrefois de graver une scène très compliquée sur une pierre très petite et quelquefois très dure à sculpter.
C'était une sorte de méthode d'imprimerie. Voilà. On roulait ce cylindre et il en sort des scènes compliquées et nombreuses.
C'est une source d'informations, de renseignements inépuisables.
Il semblerait que chaque roi a choisi pour ses cylindres une épopée à laquelle il se réfère comme on peut prendre une devise. J'ai vu au musée de Bagdad, par exemple, un sceau qui reproduisait l'épopée de Gilgamesh.
L'épopée de Gilgamesh, c'est vraiment l'épopée le plus ancien. Et à mon avis, ce qui est très important, c'est l'idée essentielle de cette épopée, c'est-à-dire la recherche de l'homme. L'homme était toujours à la recherche de l'éternité. Alors l'épopée de Gilgamesh exprime, n'est-ce pas, cette recherche de l'éternité.
On a découvert à Marie une statue qui est, je crois, au musée d'Alep maintenant, une statue de lion très importante.
On a découvert à Marie deux statues de lions en bronze, dont un au musée du Louvre et l'autre au musée d'Alep. Et ce qui caractérise ces deux statues, c'est le réalisme. Vraiment, cette statue sont d'un réalisme extraordinaire. Et ça reflète vraiment l'habileté de l'artiste. Et la technique de bronze, vous savez, c'est une technique extrêmement intéressante, n'est-ce pas, extrêmement importante. Alors ça prouve que l'artiste de Marie était à cette époque-là à un certain niveau, n'est-ce pas, artistique d'une grande importance.
L'époque étant le troisième millénaire.
Oui, fin du troisième millénaire, mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas, de l'art amorite.
Comment étaient les maisons de Marie? Comment étaient-elles architecturalement édifiées?
La mission française poursuivit, vous savez, ses fouilles systématiques, n'est-ce pas? Et cette mission a mis à jour, n'est-ce pas, beaucoup de constructions d'une grande importance. Mais ce qui est très important, c'est le modèle, n'est-ce pas? C'est la maquette découverte par notre professeur, M. André Parot. C'est une maquette en forme circulaire, mais le plan est tout à fait le plan oriental, c'est-à-dire une cour à ciel ouvert, entourée des chambres, et il y a, n'est-ce pas, la cuisine. Mais ce qui est étrange, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore découvert à Marie des constructions en forme circulaire, ce qui pose un problème, n'est-ce pas? Ou est-ce que, n'est-ce pas, c'est une maquette d'une maison qu'on ne fait pas achever, n'est-ce pas? Ou qu'on ne fait pas construire? Ou c'est une simple, n'est-ce pas, simple maquette? Mais tout de même, n'est-ce pas, vraiment, c'est un document extrêmement intéressant pour l'histoire de l'architecture en Orient.
Il semble que Marie ait été un lieu de passage entre les routes de la soie, les routes des épices, entre l'Asie et le Proche-Orient, et que la fortune de Marie soit venue des taxes perçues pour laisser transiter ses marchandises, n'est-ce pas ça ?
En réalité, madame, c'est un royaume extrêmement important qui a joué un rôle dans le Proche-Orient de cette époque-là.
Ça a été un rôle de charnière entre l'Orient asiatique et l'Orient occidental, si je peux dire.
Oui.
Il semble que ce soit la richesse de Marie qui ait suscité l'envie et finalement causé sa perte.
C'est-à-dire, vous savez, madame, les documents qu'on a trouvés à Marie nous donnent beaucoup de renseignements, comme je vous ai dit, n'est-ce pas? Par exemple, les pierres précieuses, n'est-ce pas? Alors, certainement, les spécialistes vont poursuivi leurs études pour savoir la provenance de ces pierres précieuses, la provenance de la cornaline, par exemple, la provenance de la pilazuli. Et je crois qu'ils vont publier des choses qui nous donnent des renseignements sur la prospérité, si vous voulez, de la vie économique de Marie. Mais, vous savez, en 32e année du règne du roi Hammurabi, eh bien, Marie a été annexée au royaume babylonien et finalement, elle a été détruite, n'est-ce pas, par Hammurabi. Parce que Hammurabi a rêvé de réaliser, n'est-ce pas, un empire au lieu de petits états. Il a annexé, n'est-ce pas, à son royaume Larsa et Isin et d'autres royaumes mésopotamiens. Et finalement, il a annexé le royaume de Marie même.
Il voulait faire de Babylone la capitale du monde.
Exactement, la capitale du monde. Palmyre, la fiancée du désert, a joué un rôle extrêmement important. Et l'histoire de Palmyre, c'est une histoire extrêmement illustre de la Syrie avant l'islam. Tout d'abord, était une oasis qui possède une source d'Efka. Et cette source d'Efka est à l'origine de la prospérité de Palmyre. La source a attiré l'attention des caravanes, de façon que cette source était à l'origine d'un petit village, n'est-ce pas, d'une... Finalement, Palmyre est devenue une ville extrêmement importante qui a joué un rôle dans la vie et dans l'histoire de cette région. Et la richesse de Palmyre a attiré l'attention du général romain, n'est-ce pas, Antoine, Antonius, n'est-ce pas, qui est arrivé pour attaquer, n'est-ce pas, cette ville et prendre sa richesse. Mais les habitants de Palmyre étaient très intelligents. Avec leur tactique, n'est-ce pas, ils ont sauvé leur ville et ils ont sauvé aussi, ils ont gardé leur trésor. Rome a considéré la victoire de ce arabe lénin comme une sorte de vengeance, n'est-ce pas. Le mari de la reine Zénobie, Odena était presque un grand roi de cette région, mais malheureusement, en assistant aux cérémonies de Homs, il fut assassiné avec son fils.
Homs, c'est le nom actuel d'Emèse.
Il fut assassiné avec son fils, qui s'appelle Hayran, et la reine Zénobie est devenue la régente parce que son fils, Vaballatus, était un enfant encore, n'est-ce pas? Peut-être à l'âge de 11 ans ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et il a voulu que tous les titres royaux, n'est-ce pas, de son mari soient, n'est-ce pas, pour son fils. Mais Rome a considéré que ces titres, n'est-ce pas, étaient personnels pour le roi Odena seulement. La reine Zénobie était très intelligente. Il a voulu faire un royaume national, si vous voulez. Son pouvoir s'étendit jusqu'aux frontières libyennes, n'est-ce pas? Et même Alexandrie était, n'est-ce pas, une partie de son royaume. Mais l'empereur Aurélien a trouvé que la force de la reine Zénobie, ça menace son empire. Surtout lorsque la reine Zénobie a frappé de monnaie aussi bien à Alexandrie qu'à Antioche, la reine Zénobie a résisté de façon que l'empereur Aurélien, et il a dit, n'est-ce pas, à son compagnon, n'est-ce pas, sa parole célèbre, qu'à Rome, on moque de nous de cette guerre que nous déclarons contre une femme, mais ils ne savent pas la qualité de cette femme. Alors ça prouve que la reine Zénobie, n'est-ce pas, était une reine d'une grande qualité, n'est-ce pas? Et finalement, lorsque son fils est mort, n'est-ce pas? Alors, il a trouvé que son armée est devenue très faible, n'est-ce pas? Alors, elle était déçue. Alors, elle a pensé de quitter sa capitale. Mais l'armée romaine était, n'est-ce pas, à sa poursuite. Et comme vous savez, n'est-ce pas, ils ont retenu, n'est-ce pas, la reine Zénobie Et elle est morte à Rome après 3 mois à peu près, n'est-ce pas, de son arrivée à Rome.
Quelle construction doit-on à la reine Zénobie ?
La sculpture de Palmyre nous a donné beaucoup de renseignements sur le rôle de la femme. Beaucoup de reliefs représentent une femme. Alors ça prouve que la femme a joué un rôle dans la société palmyrénienne. Quelques femmes, n'est-ce pas, sont parées de plusieurs colliers, de bracelets, de bijoux, etc. Alors ça prouve que les bijoux étaient extrêmement intéressants. Et même il y a un texte concernant un syndicat des bijoutiers, des travailleurs de l'or et de l'argent. Alors ça prouve que cette corporation professionnelle, n'est-ce pas, des bijoutiers, ont joué un rôle extrêmement important.
Je crois, docteur Zourdi, que vous êtes beaucoup trop modeste sur le rôle de la femme syrienne. On voit dans votre musée national de Damas combien ces Syriennes étaient belles et coquettes et admirablement coiffées. Mais elles ont séduit les empereurs de Rome et joué un rôle dans l'Empire romain politique et esthétique.
La femme a joué un rôle extrêmement important sous la dynastie Sévère.
Vous savez, Sévère.
Septime Sévère, oui. Vous savez que Septime Sévère a pris comme femme, n'est-ce pas, Julia Domna, qui était d'origine de Homs, d'Emez. Et c'est une jeune fille qui était très belle, très intelligente. Toujours ses amis, n'est-ce pas, c'était des philosophes, des médecins, des grands gens d'esprit. La femme de Syrie, à cette époque, a joué un rôle extrêmement important. Alors, preuve, n'est-ce pas, la parole de Juvénal. Juvénal a critiqué, n'est-ce pas, cette influence de la femme syrienne, même l'influence de la Syrie en général, n'est-ce pas. Il a dit que le fleuve de Syrie, l'Oronte, se jette dans le fleuve, le Tibre, n'est-ce pas. Alors, ça prouve, par cette phrase, que l'influence syrienne était extrêmement forte à cette époque-là.
C'est bien Julia Domna qui a fait venir des artistes syriens, dont le célèbre architecte Apollodore de Damas.
En réalité, ce n'est pas Julia Domna qui a appelé Apollodore de Damas. Parce que Apollodore de Damas, c'est de l'époque de Trajan.
Oui, c'est vrai, puisque c'est lui qui a construit sur le Danube
le
pont qui a permis aux Romains gagner la Roumanie. Voilà. Exactement, un endroit qui s'appelle maintenant Turnus Severin, c'est-à-dire la tour de Sévère.
Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Trajan a estimé, n'est-ce pas, l'habileté et l'intelligence de Apollodore de Damas, qui était à cette époque-là le grand architecte, n'est-ce pas, comme Le Corbusier de notre époque, si vous voulez, n'est-ce pas. Alors, il lui a appelé Apollodore de Damas de faire construire le forum de Trajan à Rome même. Alors, ainsi, ça prouve que Apollodore de Damas possédait, n'est-ce pas, une technique architecturale très intéressante. Et c'est considéré comme un grand architecte de cette époque-là.
Je ne sais pas qui a volé qui. On nous annonce un chant traditionnel araméen dont le thème est un thème d'exil et d'espoir de retourner en Mésopotamie. Mais vous allez entendre l'air, le reconnaître, et je ne sais pas qui l'a pris à l'autre.
Taul kuno zoro ye adana tezlan haye tobzano Taul kuno zoro ye adana tezlan haye tobzano Bjul fane uya zozo yo şafire du boruzo menden ya beli gefe de tuz adam ol zavve doy bet marin menden ya beli gefe de tuz adam ol zavve doy bet narin وقنا بعفران يحو ونسوك من ريحو مورد لبوس وما لو مشترين.
Alors la chanson que nous venons de chanter, c'est une marche araméenne qui est datée de 500 ans. Avant ça, avant les paroles que nous avons chantées, il y avait d'autres chansons des paroles d'une poésie différente que celle que nous avons chantée actuellement.
Oui, mais sur le même air.
Sur le même air, oui. Toujours sur le même air. Et ça, ça se traduit d'un siècle à l'autre et toujours c'est la même chose.
Docteur Zourdi, lorsqu'on voit les mosaïques admirables de Syrie, il était évident que l'influence des artistes syriens a été grande sur l'art chrétien d'Occident et singulièrement sur Ravenne.
Beaucoup d'artisans syriens ont travaillé à Ravenne même. Ça peut être possible, n'est-ce pas? Et nous savons toujours que les artisans voyagent, n'est-ce pas? Ils travaillent où ils peuvent gagner leur vie. Alors, à l'époque où Théodora, qui était d'origine de Membij, n'est-ce pas, de Syrie, alors c'est possible, n'est-ce pas, que ces artisans aient travaillé, n'est-ce pas, à Ravenne. Ils ont contribué, si vous voulez, à la renaissance de l'art de la mosaïque à Ravenne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a de relations entre l'art de Ravenne et la mosaïque de la mosquée Omeyyade. Alors ça prouve que c'est presque la même tradition, n'est-ce pas, artistique, aussi bien en Syrie qu'à Ravenne. En plus, les dernières découvertes des mosaïques en Syrie confirment que la Syrie était un grand centre, un grand foyer de l'art de la mosaïque, surtout de l'époque romaine et de l'époque byzantine. Vous savez, à Shahba, dans la ville de l'empereur Philippe l'Arabe, on a découvert des pavements de mosaïques d'une grande beauté artistique. Parmi ces mosaïques, je peux citer, n'est-ce pas, la scène qui représente le poète légendaire, n'est-ce pas, le poète Orphée, tenant sa lyre, et comment les animaux s'approchent en écoutant sa belle musique, parce qu'il a perdu, vous savez, il a perdu sa femme, alors il a rempli, n'est-ce pas, le monde, n'est-ce pas, par ses poèmes, sa musique, qui était extrêmement sincère. Et un autre panneau qui représente Aphrodite et Mars, d'une beauté extraordinaire. Alors ça prouve que la Syrie vraiment était un grand centre de l'art de la mosaïque, un grand foyer de l'art de la mosaïque. Le nombre de pavements découverts récemment confirme cette idée. Et puis, n'est-ce pas, vous savez qu'à Antioche, on a découvert aussi plusieurs mosaïques. À Apamé, la mission belge, dirigée par monsieur le professeur Balti, Charles Balti, eh bien, cette mission belge a découvert des pavements de mosaïques d'une grande beauté. Parmi ces pavements, je me permets de citer le philosophe Socrate. Alors, ça prouve que Apamé était un grand foyer philosophique. Il y a une grande école philosophique à Apamé. Vous savez, à cette époque, il y a une école de droit à Beyrouth. Croisades, n'est-ce pas? Alors les croisés sont rentrés en Europe avec des souvenirs culturels, si vous voulez, de tout ce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, en Orient, aussi bien au point de vue de l'architecture que dans d'autres domaines artistiques.
Et aussi avec des plantes, ce qu'on oublie toujours. Notre végétation en Occident était très pauvre en fleurs. Et c'est après...
La rose de Damas, vous savez, jouit d'une célébrité mondiale, n'est-ce pas? Surtout, vous savez, l'agriculture était extrêmement intéressante en Orient. Et je crois que c'est un héritage extrêmement précieux. Les générations successives ont contribué à réaliser de nouvelles découvertes, de nouvelles créations, si vous voulez, de nouvelles méthodes dans tous les domaines. Alors, dans le domaine d'agriculture, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont arrivés à découvrir la beauté de la rose de Damas, qui se caractérise par la couleur rouge, vous savez, et toujours le parfum, n'est-ce pas, des fleurs, etc. Alors, les croisés, lorsqu'ils ont vu, n'est-ce pas, cette rose, alors ils ont porté avec eux cette rose, alors qui était, cette rose était l'objet de la fierté des palais royaux, n'est-ce pas, en Europe.
On montre encore à Paris, dans le quartier de Montmartre, derrière le Sacré-Cœur, rue du Chevalier de la Barre, dans un couvent, un rosier rapporté par je ne sais plus qui, à sa sœur, voilà, qui est dans ce couvent, et qui serait le premier rosier de France, voilà, à portée de Damas. Voilà. Je ne garantis pas que ce soit toujours le même rosier, mais on le dit.
Voilà. Il y a beaucoup de relations culturelles entre la Syrie et la France, n'est-ce pas? Et l'historien Philippe Hetty disait, n'est-ce pas, au sujet de correspondance entre Saint-Simeon Stylite et Sainte-Geneviève de Paris, par l'intermédiaire des commerçants syriens.
Mais vous savez, comment ce Stylite, qui vivait sur sa colonne, écrivait-il tellement? Car il a beaucoup écrit.
Vous savez, Saint-Simeon Stylite, c'était un homme très saint, n'est-ce pas, très sincère. Alors, il est arrivé à créer cette méthode, n'est-ce pas, de culte. Alors, beaucoup de gens qui sont venus, n'est-ce pas, de l'Europe pour visiter Saint-Simeon Stylite, qui a passé 27 ans de sa vie sur une colonne. Et on a découvert la base de cette colonne. Et vous savez que l'architecture de Saint-Simeon Stylite, vraiment, c'est une architecture extrêmement intéressante, parce qu'après sa mort, eh bien, en l'honneur de ce saint, l'empereur Zénon et d'autres empereurs byzantins ont pensé de faire construire un grand couvent en l'honneur de ce saint syrien. Je me permets de vous dire, madame, qu'à Paris, il y a une petite église que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, que j'ai visitée lorsque j'étais en France. Ça s'appelle l'église de Saint-Julien le Pauvre. Alors, c'est une petite église.
L'actuel évêque est syrien, c'est l'ingénieur Nashraba.
Exactement, voilà. Alors, c'est une petite église qui a tous les caractères des églises syriennes, n'est-ce pas? Une petite église, mais vraiment, c'est très spirituel. C'est un lieu, n'est-ce pas, de la spiritualité, si vous voulez, et qui nous donne une idée sur l'architecture et la contribution, si vous voulez, de la Syrie à l'architecture chrétienne.
Mais que sait-on de la correspondance échangée entre Saint-Simeon le Stylite et Sainte-Geneviève de Paris?
Les commerçants syriens, n'est-ce pas, trafiquaient depuis la plus tôt antiquité, n'est-ce pas, entre l'Orient et l'Occident. Alors, à Marseille, n'est-ce pas, se trouvaient beaucoup de Syriens, n'est-ce pas, qui ont travaillé, qui ont trafiqué entre l'Orient et l'Occident. Et quelques-uns sont arrivés à Paris, et là-bas, ils ont rencontré cette sainte parisienne, n'est-ce pas, Sainte-Geneviève. Alors, elle a entendu parler l'histoire de Saint-Simon le Stylite, qui passe sa vie sur une colonne. Alors, elle a admiré ce saint, et elle a entendu avec beaucoup d'intérêt sa nouvelle. Et en même temps, elle a envoyé, n'est-ce pas, des lettres à ce saint syrien. Et en même temps, le saint Simeon Stylite a envoyé aussi une réponse ou des réponses. Alors, ça prouve que ces gens, n'est-ce pas, qui étaient très saints, eh bien, sont liés par le même but, c'est-à-dire le bonheur de l'homme.
Mais connaît-on le contenu de ces lettres?
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, n'est-ce pas, qui sont intéressés à publier, n'est-ce pas, le contenu de ces lettres. Mais les historiens, ils ont parlé très rapidement au sujet de cette correspondance entre Sainte-Geneviève de Paris et le Saint-Simeon Stylite.
Le culte des tombes est très vivace en Syrie. Il y a des moments d'ailleurs où des gens qui ne sont pas du tout syriens viennent en grand nombre, 2000, 5000, 80 000. Ils viennent sur la tombe de Zainab, qui était la sœur de Hussein, le martyr qui fut assassiné à Koufa et qui donna naissance d'ailleurs à la religion chiite. Cette tombe est très proche de Damas et au début du mois d'avril, les Iraniens surtout, et d'autres peuples chiites, mais surtout les Iraniens, viennent en très grand nombre, les femmes voilées, enveloppées de leur voile ou noir ou de couleur, accompagnées d'enfants, campant partout et apportant des présents sans mesure avec leur fortune, car ce sont des villageois. Or, ils donnent des tapis, des montres en or. Et c'est tout à fait étrange que ces pèlerinages, que l'on imagine une pénitence, un sacrifice, une marche vers quelque chose, et qui se font maintenant en avion, tout simplement, en autobus, en voiture, et des chambres d'hôtel étant louées. Il y a là une sorte de hiatus qui est un peu difficile à comprendre, mais ça ne semble pas altérer la dévotion. Je dois dire que, à la fois le tombeau de Zainab, les musulmans de Damas étant sunnites, c'est-à-dire orthodoxes, ce tombeau étant vénéré surtout par les chiites, qui sont donc des schismatiques, et le tombeau de Jean-Baptiste, chrétien, à l'intérieur de la mosquée, souligne cette vocation syrienne d'écuménisme vrai.
La matinée des autres. L'alphabet père. Par Hélène Tourner. Avec le docteur Bachir Zourdi, conservateur des antiquités classiques au musée national de Damas. Le père Philippe Ashkar, supérieur du couvent Saint-Serge à Maloula. Afram Samuel. Texte lu par Jean Bollery. Bibliographie. Claude Palazzoli. La Syrie, le rêve et la rupture, édition Sycomore. Pierre Rossi, La Cité d'Isis, Nouvelles Éditions Latines.